français, parle au français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Les carottes sont cuites, je répète, les carottes sont cuites.
Je répète.
Le loup est dans la bergerie, je répète, le loup est dans la bergerie. Le groove perdu va commencer. Je répète, le groove perdu va commencer.
Salut à vous et bienvenue sur votre radio locale à la recherche du groove perdu, session 390. Une émission à géométrie variable produite depuis 2011, diffusion radiophonique en mars 2022 sur les ondes de RDWA, Radio Dragon et Radio Sainte-Afrique. Cette semaine, troisième émission du cycle d'émissions intitulé « C'est pour Kiki qu'on va voter pour », une série d'émissions sur ce rendez-vous de notre démocratie représentative française. Je veux parler bien sûr des élections présidentielles de 2022. C'est le moment privilégié de la rencontre des Français avec leur futur monarque, celui qui fera la pluie et le beau temps pendant les 5 prochaines années. La semaine dernière, on a voté à droite, on a mis le bulletin Pécresse après avoir fait un petit tour d'horizon des personnages vertueux de cette famille politique. Cette semaine, on reste à droite, mais on se droitise encore plus. La droite, la gauche, c'est pareil. Donc, on essaye l'extrême droite, la droite identitaire, la droite réactionnaire. Attention, on parle là d'une famille politique qui, certes, se tire dans les pattes et se divise, mais qui, elle occupe, cette famille politique, un espace médiatique de plus en plus important. Et surtout, elle rassemble un électorat qui représente environ 30-35% des votants, j'ai bien dit des votants, pas de la population totale. Quels sont les thèmes, les valeurs de l'extrême droite, même si on les connaît un peu? Petit rappel, Le Pen, le père Jean-Marie, en son temps avait un programme économique très libéral, mais il faisait de l'immigration le péril numéro 1 de la France. Ils, les immigrés, nous piquaient notre boulot, nous, Français de souche. L'équation était simple à comprendre, il y avait plein d'immigrés qui arrivaient avec des gauchos au pouvoir, il fallait qu'ils trouvent de l'argent, donc ils travaillaient, donc ils prenaient notre boulot, les arabes, les noirs et tout ce qui faisait pas couleur locale était la cible numéro 1. Avec la fille, on a gardé ce discours de fond xénophobe, voire raciste, même si elle a mis de l'eau dans son vin à ce niveau-là, mais elle y a ajouté un peu de Karl Marx, une pincée de lutte des classes. Avec après les immigrés, l'autre ennemi majeur est donc la dérive libérale de nos sociétés, le capitalisme financier qui tue peu à peu le petit peuple. Le Front National, aujourd'hui Rassemblement National, a un discours ambigu et emprunte à la fois aux idées traditionnelles de l'extrême droite et celles de l'extrême gauche. L'objectif étant de rameuter le plus d'électeurs venant des plus basses classes sociales, les anciens prolétaires. Depuis quelque temps, elle courtise aussi l'électorat des Républicains. Ce grand écart entre les idées d'extrême droite et des revendications venant de l'extrême gauche n'est pourtant pas nouveau, comme nous l'explique l'historien Gérard Noiriel en pleine crise des Gilets jaunes. C'était en novembre 2019 et il était au micro de France Culture. C'est parti.
Gérard Noiriel, vous publiez Gérard Noiriel, Le Venin dans la plume. C'est la première fois qu'un historien, reconnu, s'intéresse à Éric Zemmour, considéré comme un polémiste. Vous le comparez à Édouard Drumont, qui a écrit à la fin du 19e siècle La France juive, en soulignant également les différences qu'il y a. Votre ouvrage et publié aux éditions de La Découverte, je vais vous faire entendre Marine Le Pen. Marine Le Pen qui effectuait hier sa rentrée politique.
Derrière les sourires de jeunes premiers et les postures de batte à mort, c'est l'image de notre pays qui a été abîmée. Les gardes à vue préventives, comme les campagnes de diffamation d'État contre les opposants, ou les manifestants, panoplie des régimes autoritaires, n'ont pas grandi l'image de nos gouvernants. On a vu des chars dans Paris, on a vu des policiers armés de pistolets mitrailleurs pour faire face à des Français. L'histoire retiendra que la pire faute politique de M. Macron sera d'avoir lancé les Français les uns contre les autres. Pour nous, il n'y a pas de pire spectacle que la division des Français.
Gérard Noiriel, si je voulais vous faire entendre cette portion du discours de Marine Le Pen, c'est pour que vous nous disiez dans quelle mesure il y avait des invariants ou au contraire une profonde rupture dans ce discours, si on devait deviner si ces paroles sont ou non le fait d'une dirigeante d'extrême droite, aurait-on facilement la réponse ?
Il me semble que oui, hein, il y a toujours dans l'extrême droite une tentative pour évidemment dire qu'il parle au nom du peuple. Et Drumont, c'est typique, il était considéré presque comme un socialiste, il défendait les communards, etc. Mais une association justement entre un discours qui prétend défendre le peuple et qui rejette l'étranger, l'immigré, etc. Donc on pourrait dire... à Madame Le Pen que ses discours sur l'immigration, c'est le meilleur exemple qu'on ait de division des Français. Parce que c'est en ça que ça revient.
Bon, mais là, oui. Elle prend fait et cause pour les Gilets jaunes. Oui. Elle considère que l'on est du côté du peuple quand on est du Rassemblement National. C'est un peu comme si, à Fourmies, pour prendre le grand massacre ouvrier du 19e, je ne fais pas de comparaison historique, oui. Scabreuse, mais en tout cas, à Fourmies, l'extrême droite n'était pas du côté des ouvriers, Gérard Noiriel.
Oui, mais il faut bien voir qu'à cette époque-là, on est à une période de construction des partis. Hein. C'est vraiment une période où les choses ne sont pas encore mises en place. Mais si on prend dans les années 30, on trouve déjà le national-socialisme. Qu'est-ce que c'est ? C'est bien une combinaison d'un discours pour le peuple et national. C'est cette combinaison-là. C'est un enjeu qui a opposé, je dirais, la gauche et l'extrême droite visant à conquérir les suffrages d'une partie des classes populaires avec un enjeu qui est de dire quel est l'ennemi ? Est-ce que c'est l'étranger ou est-ce que c'est le grand capital ? Enfin, voilà. Et là, évidemment, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, où la gauche a quand même, on le sait, déserté le terrain social, il est occupé, voilà.
Et en fait, pas toute la gauche.
Pas toute la gauche, mais quand même, disons, il y a... Les Gilets jaunes, c'est aussi la conséquence d'une déception des classes populaires à l'égard de la politique qui a été menée par la gauche. Je veux dire, depuis les années 80, on a, bon, je veux dire, c'est assez documenté pour le savoir. Donc, dans cette crise qui affecte aujourd'hui la représentation, quand les Gilets jaunes ne se sentent plus représentés par des syndicats ou des partis de gauche traditionnels, évidemment, ça laisse un espace que l'extrême droite essaye d'utiliser.
Il faut vite que tu ranges toi. savoir ce que c'est la vie conjugale que peut mener cette tare congénitale. Ah ah, ah ah. Cet individu est né à l'insu de ses parents. N'allons pas plus loin disant que c'est un accident. Ah ah, ah ah.
Depuis quelques mois, un autre courant de cette famille politique vient foutre la merde. Éric Zemmour, pas le coiffeur, le polémiste ou je sais pas trop comment le définir. On a vu sa tête partout depuis une dizaine d'années chez Ruquier avec son pote Nolo chez CNews. Et puis le mec a décidé de mettre ses idées en application et de se présenter. Il le fait en essayant de rameuter davantage du côté de la bourgeoisie que des prolos. Petite variante avec Marine Le Pen. Lui, il veut les voix de toute la droite, des républicains les plus proches des idées de l'extrême droite. Et la cloison est très fine. Le roman national de Zemmour est celui d'une France fière de son histoire, de son origine, fière des guerres de religion du temps jadis, fière des croisades, de ses grands hommes, Bonaparte, De Gaulle, Pétain, fière des rois de France. De Clovis à Louis XVI, et puis un troisième larron qu'on peut assimiler à cette famille politique, Dupont-Aignan, qui a récemment trouvé du soutien auprès de Philippot. Il a reporté en 2017 Dupont-Aignan ses voix sur Le Pen aux dernières en 2017. Lui représente une droite souverainiste, sale ultrain, moins libérale du coup, mais qui tape aussi sur les immigrés. En 2010, l'essayiste Renaud Camus a inventé un terme, celui du grand remplacement. Notre civilisation judéo-chrétienne serait menacée et remplacée à terme si on ne bouge pas ces infidèles en dehors de nos frontières par une civilisation métissée, mondialisée et surtout islamisée. Le Pen, Zemmour, Dupont-Aignan et une partie de la droite républicaine ont ce point commun. Ils croient dur comme fer en ce grand remplacement et en font un argument de campagne. Et quoi de mieux, avant de spéculer, de laisser celui qui a théorisé ce concept de le définir. On écoute Renaud Camus, il était sur CNews en novembre 2021 et on l'interrogeait sur ce sujet. C'est parti.
Ma première question vient précisément d'une expression que vous avez lancée et qui fait floresse, qui est celle du grand remplacement. Il y a eu un sondage très récent qui a été publié dans Challenge qui montre que 67% des Français craignent précisément ce grand remplacement dont une partie des médias, une partie de la presse dit qu'elle est un fantasme et un complot. Mais je voudrais m'accorder avec vous en préalable sur la définition que vous donnez de ce grand remplacement-là pour savoir si vous agréez à la définition qu'en donne Challenge qui dit, vous citez, et qui dit « Les populations européennes blanches et chrétiennes étant menacées d'extinction suite à l'immigration musulmane provenant du Maghreb et de l'Afrique noire ». Est-ce que ce grand remplacement correspond bien à cette définition que l'on vous attribue ?
Absolument pas. Ça, c'est Challenge, comme beaucoup de journalistes, je dois le dire, copie Wikipédia. La grande source, c'est Wikipédia, qui fait absolument tout pour me nuire, aussi bien quant au grand remplacement que quant à mon compte personnel, sur lequel il ne fait que raconter des horreurs. Et alors, on doit être très reconnaissant à Wikipédia pour tout ce qui concerne l'histoire, l'érudition pour le temps passé, mais il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, pour les enjeux actuels, Wikipédia est absolument entre les mains d'une mafia absolument féroce et le terrain d'une guerre. D'ailleurs, mon compte est le terrain d'une guerre quotidienne. Mais bien entendu, ce que j'appelle les remplacistes, c'est-à-dire les partisans du grand remplacement, ont la haute main sur Wikipédia et on ne peut pratiquement...
Alors, quelle est votre définition du grand remplacement ?
Moi, je n'ai jamais parlé ni des blancs, ni des chrétiens. Rien n'est plus simple. Le remplacement, c'est le changement de peuple. Le changement de peuple avec le changement de civilisation qui l'implique. Il y a un peuple et en l'espace d'une ou deux générations, il y a sur le même territoire un ou plusieurs autres peuples. Mais peu importe quels sont les peuples qui font l'objet.
Est-ce que vous on vous reproche de dramatiser dans le fond une situation qui est pour l'instant une situation qui se vérifie localement, ponctuellement en certains points du territoire, non, avec des substitutions de population, c'est incontestable. Des démographes avant vous l'ont décrit. Mais est-ce que vous ne généralisez pas trop ce phénomène de grand remplacement là ?
Non, ce phénomène est absolument global et on le saurait trop le dramatiser. Ce phénomène est une chose absolument épouvantable. Ce que les Français et tous les peuples de la Terre ont craint pendant toute leur histoire, rien ne pouvait être pire que, qu'un changement de population. Les Français se sont battus de nombreuses reprises pour essayer d'éviter ça, et c'est ce qui survient. Donc on ne saurait dire qu'on dramatise, c'est le drame du 21e siècle, ou même le crime contre l'humanité du 21e siècle. On ne saurait dramatiser, c'est une chose horrible, le grand remplacement. On m'appelle quelquefois le chantre du grand remplacement, c'est une autre malentendu.
On dit également du grand chantre, il serait une théorie, vous vous insurgez contre ceci. Vous...
Oui, c'est pas du tout une théorie, hélas, c'est plutôt ciel que ce fut une théorie. Ce n'est pas une théorie, c'est l'horrible réalité qui est d'ailleurs... En pleine lumière, il suffit d'avoir des yeux pour le constater.
Je suis parti de chez mes rondas sans un ronga, c'est du peu rap, pas du reggae. J'ai décidé de me décider, faire de la musique comme Bassidi.
Comme Bassidi,
comme Bassidi,
comme Bassidi,
comme Bassidi,
comme Bassidi,
comme Bassidi,
comme Bassidi.
Le grand remplacement, c'est ta fille qui me kiffe, qui va me faire des enfants et ils auront mon pif. Je déboule dans ta vie comme les trottinettes à Paris. Je veux l'argent des Qataris, monsieur l'agent sur le tatami. Je suis parti de chez mes rondas sans un ronga, c'est du peu rap, pas du reggae. J'ai décidé de me décider, faire de la musique comme Bassidi.
Comme Bassidi,
comme Bassidi,
comme Bassidi,
comme Bassidi,
comme Bassidi,
comme Bassidi,
comme Bassidi.
Elle veut que je lui fasse un bébé, puis deux, puis trois. Elle veut que je lui dise que je l'aime, puis que j'y crois. Je suis jamais sûr de moi. Quoi, l'amour dure 3 ans? L'amour dure 2 mois. Ouais, l'amour dure 2 mois. Grand remplacement, c'est moi. Puis eux, puis toi. Les grands méchants, c'est nous. Rebeux, Renois. Moi, perso, ça me va. Je préfère mourir loup-garou que vivre en villageois. Que vivre en villageois. Tu peux vivre ta vie ou regarder la leur sur le net. Pour une bagarre ou un date, j'y vais toujours sans lunettes. Je me fais rare, comme les blancs à Gare du Nord. Éphémère, comme la vie d'un garde du corps. Si je mets replay, le son est bon. Sinon, me demande pas, elles sont belles, j'en deviens débile. Je suis trop Matrix et gars. Quand je te dis je t'aime, c'est toi ou ton pétard. Je sais plus, je sais pas, pourquoi on sait plus au départ. Dans mes rêves, un keuf me shoot, j'hésite à big grave du shit. Dans mes rêves, un peu de doute, j'hésite pas quand j'ai des dettes. Génération
Internet.
Jamais aimé qu'on
me note.
Je vais percer dans
2 minutes.
Le décollage est imminent. Je suis parti de chez mes rondas sans un ronga. C'est du peu rap, pas du reggae. J'ai décidé de me décider, faire de la musique comme Bassidi.
Comme Bassidi,
comme Bassidi,
comme Bassidi,
comme Bassidi,
comme Bassidi,
comme Bassidi,
comme Bassidi.
Elle veut que je lui fasse un bébé, puis deux, puis trois. Elle veut que je lui dise que je l'aime, puis que j'y crois. Je suis jamais sûr de moi. Quoi, l'amour dure 3 ans? L'amour dure 2 mois. Ouais, l'amour dure 2 mois. Grand remplacement, c'est moi. Puis eux, puis toi. Les grands méchants, c'est nous. Rebeux, Renois. Moi perso, ça me va. Je préfère mourir loup-garou que vivre en villageois. Que vivre en villageois.
Le grand remplacement obsède l'extrême droite depuis quelques années au point d'aller dans la rue interviewer des gens dans les quartiers populaires comme Barbès, dans la Seine-Saint-Denis, dans le 9-3 ou dans certains quartiers populaires de Marseille pour savoir ce qu'ils en pensent. C'est bien sûr pas anodin, c'est d'aller filmer ces lieux. C'est ce qu'a fait le média de droite identitaire, c'est comme ça qu'il se définit, le média nommé Livre Noir, un journaliste. Un petit gars sympa demande aux gens qui rencontrent dans la rue ce qu'ils pensent de Zemmour, du grand remplacement, etc. Les gens au micro sont quasi tous des blacks, des rebeux, des gens d'Europe de l'Est, des sans-papiers qui parlent à peine français. Le montage réalisé est clairement orienté et donne effectivement une impression de grand remplacement, voire de très grand remplacement dans ces quartiers, mais sans donner d'explication particulière. J'aime bien l'analyse du premier à passer. Il dit oui, effectivement, dans certains endroits, certains quartiers, il n'y a plus de rebeux, de renois. Mais ils n'y sont pour rien. Ça s'est fait comme ça, sans volonté communautariste particulière. Allez, petite plongée dans cette obsession de l'extrême droite, le grand remplacement, la parole aux gens dans la rue. C'est parti.
Alors moi je m'appelle Ziad et je vis à Marseille en fait. Je suis vendeur dans la téléphonie.
Vous êtes né en France ?
Ouais, je suis né à Marseille. Ouais.
Vous avez quoi comme origine ?
Ben, tunisienne.
Ok. Et alors vous en pensez quoi de cette histoire de grand remplacement ?
Concrètement il y en a un, c'est indéniable. Et sauf que voilà, la manière dont c'est présenté, il n'y a pas une réunion de gens marocains, algériens qui disent on va conquérir. Donc du coup c'est... Pour les gens qui sont contre, de manière un peu épidermique, ils vont dire non mais c'est pas quelque chose qui a été fomenté par les personnes qui sont là justement. C'est quelque chose qui est fait malgré nous. Donc c'est pour ça qu'ils vont avoir tendance à dire non c'est pas vrai, ça n'existe pas, parce qu'ils prennent ça comme une accusation. Donc s'il n'y a que des Maghrébins, des Renois, comme ils disent, etc. S'ils vont vous dire non, il n'y a pas de grand remplacement, c'est parce qu'ils sont dans l'idée de dire mais nous on y est bon. Mais, okay. Que ce soit une bonne chose ou pas, on y est pour rien et on est là.
Okay. Vous vous appelez comment ?
John.
Youssef.
Ok, et vous venez d'où ? Vous êtes né en France ?
Ouais, à Livry-Gargan.
Ouais, pareil, à okay. Montreuil.
Vos parents, ils viennent d'ici ?
Oui, moi oui.
Moi, ils sont immigrés ici.
Ok, ils viennent d'où ?
Maroc.
Ok, et, mais toi, t'es né en France ?
Non, je suis né en France, à Montreuil. Ouais.
Vous avez toujours vécu ici ?
Oui, toujours.
Toujours. Okay. Toujours un peu dans le sud, un peu partout, mais toujours en France, jamais à l'étranger.
Pas filmé le visage ?
Ouais, moi, je veux pas, franchement.
Voilà.
Voilà, ouais.
Tu t'appelles comment ?
John.
Ok.
Deux.
Tu viens d'où ? Tu viens d'où ?
Ici.
T'es né ici ou ouais, à l'étranger ?
Je suis né ici.
Tes
parents ? Nationalité française d'origine immigrée. Et moi, je dirais, il n'y a pas un problème au niveau de l'immigration, il y a un problème au niveau de l'islam. Ils ont un grand mal à ce sujet-là, et ça, c'est sûr. Ça, on ne peut pas le nier. C'est vrai ou c'est faux ?
Il y a plein de choses avant tout ça. Déjà, on est délaissé, ça se voit, non ? C'est sale. On va dans le 15e, on va dans le 13e. On va juste au Rinci, dans des villes où c'est un peu plus élaboré. Ça n'a rien à voir.
Et vous faites quoi de vos journées, là ?
Moi, j'ai des études, on a des travaux, on a des commerces. On a réussi à se démerder quand même malgré tout dans la vie qu'on n'a pas...
C'est ça, c'est eux, ils nous ont donné la force.
On n'a pas une cuillère, qu'on n'est pas né avec une cuillère dans la bouche. On est quand même en France, on a des études, on a tout. Nos
ouais, parents, l'État a fait beaucoup quand même.
Mon père, il est venu du Maroc, il a fait ses études, il a galéré. Et Dieu merci, maintenant ça va. Ses enfants, ils ont quoi manger, comme la plupart des gens d'ici, toi.
Ah, la France, avant c'est 2000, c'était de la bombe. C'était opérationnel, tout le monde s'entendait. Il y avait, tu sais, l'humanité. L'humanisme, tu vois ce que je veux dire ? Les gens, ils étaient humains, tu vois ce que je veux dire ?
Qu'est-ce qui s'est passé depuis ?
Depuis, franchement, t'as bien vu, déjà quand on est passé dans l'euro, ça a commencé à...
Cyril Hanouna, je l'ai kiffé jusqu'au jour, c'est que maintenant, en gros, je l'ai toujours bien aimé, j'ai toujours apprécié ce qu'il faisait, jusqu'à là, comment tu peux ramener, tu peux mettre en tête une personne qui attise la haine sur une religion ? C'est comme si, quand, à l'époque...
Tu parles de qui ?
Cyril Hanouna. Il ramène Zemmour, il est en tête sur son plateau.
Zemmour,
ça attise la haine. C'est comme quand Dieudonné faisait ses spectacles contre les Juifs et que tout le monde a eu un... En gros, les Juifs, ils se sont sentis un peu insultés, etc. Il s'est fait éliminer de carrière,
vrai,
tout ça, éliminé.
Il s'est fait massacrer, il y a eu l'histoire, Hitler et tout, c'est vrai.
Et tu penses quoi
du... Est-ce que c'est nous la cause principale ? C'est pas nous, c'est Hitler. C'est pas nous.
Mais ça a rien à voir, ça c'est un autre débat.
Tu penses quoi ? Alors Zemmour, lui, il parle...
L'immigration, moi je parlais de pourquoi on parle de l'immigration, c'est que l'immigration à l'heure actuelle et la question que vous êtes en train de nous poser, en fait, déjà nous on a 20 ans, on est des jeunes, on s'en fout, c'est pas notre histoire, nous on est nés en France, je me sens français et je suis français. Après, cette histoire-là d'immigration, d'islam et tout le tralala, c'est qu'une histoire de pognon. C'est qu'une histoire de fric. Là, à l'heure actuelle, il est en tête de liste, il est en train de se blinder, il monte ses contrats, et tout le monde, et lui, c'est le seul, pourquoi je parle de lui, c'est le seul à l'heure actuelle qui attise la haine. Comment tu peux ramener Zemmour, tu ramènes un mec qui vomit sur l'islam ?
Eric Zemmour dit qu'il y a un grand remplacement en France. C'est-à-dire des populations étrangères qui viennent remplacer les Français de souche.
Il s'appelle comment ? C'est un arabe qui dit ça ? Alors qu'on est très bien intégré dans des endroits où c'est qu'il y a que des. Il n'y a pas d'immigration, il y a des endroits dans la campagne ou je sais pas où. On n'a aucun problème avec le français. Toute cette histoire, la nouvelle génération, on s'entend bien avec tout le monde, que tu sois arabe.
Rien
qui nous bassinent avec leur prêche de papy flippé. Pareil que les racines, ça peut empêcher de s'assimiler. Ils vivent dans la nostalgie de leur pays d'autrefois. Des petits blancs en costard gris, des bronzés qui bronchent pas. Mais l'étranger a cessé d'obéir à ce modèle. Il veut manger, amener son délire à ce bordel. Ça commence à faire un bail qu'il a posé ses valises dans cette France où il travaille pour engraisser les natifs qui se paluchent encore sur la plastique de Brigitte Bardot. Coqueluche en or de la patrie des brebis de Sarko. Ça leur fait mal quand la tendance est au physique afro. Donc ils formatent la descendance, les gosses finissent facho. Ils distinguent les Français de souche et les pièces rapportées. Des dizaines de pensées louches, leur sagesse va morfler. Y'a de plus en plus de pompins issus du métissage. Donc de moins en moins de consanguins, ça va sauver le village.
Après la guerre, l'équipe ne tournait plus en remplaçant. À présent faire le flip de fou, c'est du grand remplacement.
Ils ont leur petit mal-être, nique sa mère cousin. Ils ont peur de disparaître, mais on disparaît tous.
Regarde les tanisés, font rouge dans l'œil du vrai raciste. Regarde les balisés qu'on touche à leur suprématie.
Ils ont leur petit mal-être, nique sa mère cousin. Ils ont peur de disparaître, mais on disparaît tous.
On disparaît tous, frère.
Claude François Sardou nique la musique de France. Ne compare pas ces marlous à ma musique de classe. On est venu remplacer les dinosaures de la chanson avec du son pour offenser les philosophes de la nation. Dans la rue ça bouffe marocain, chinois, sénégalais. Le 6-3 s'étouffe, ma grosse femme mille fois s'est régalé. La CAFA fait sa franchise et son côté décalé. La clientèle apprécie ses bonnes chauffées, les palais. Le dictionnaire évolue, ça rend des mots étrangers. Le petit repère est cocu, la langue s'est trop mélangée. La jeunesse emploie des expressions arabes et manouches. La vieillesse aboie des infections, va te laver la bouche. Ajoute du jaune et du vert sur le drapeau, n'hésite pas. Ma couille tu causes des ulcères, t'auras la peau des istras. Nostalgique de plein d'enfoirés qui ont gravé de la douleur. Chauffe ta clique, repeint leur noir et blanc avec ta couleur.
Après la guerre, l'équipe ne tournait plus en remplaçant. À présent faire le flip de fou, c'est du grand remplacement.
Ils ont leur petit mal-être, nique sa mère cousin. Ils ont peur de disparaître, mais on disparaît tous.
Regarde les tanisés, font rouge dans l'œil du vrai raciste. Regarde les balisés qu'on touche à leur suprématie.
Ils ont leur petit mal-être, nique sa mère cousin. Ils ont peur de disparaître, mais on disparaît tous.
C'est pour tous les migrants et ses francs racines d'ailleurs. Majeur en l'air pour tous ces gens racistes valeurs.
Moi-même tu sais frère,
N-O-T-G-A. Ya.
Après ce constat qu'il est difficile de nier, oui, dans certains quartiers de nos villes, il y a plus ou moins de gens d'origine chinoise, antillaise, africaine, maghrébine ou je ne sais quoi. Pourtant, maintenant, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est une volonté de ces communautés de vivre en marge des autres et de dominer démographiquement les autres? Parce que c'est vraiment ce qui est l'inquiétude majeure de Zemmour et compagnie. Voici une explication qui prend un peu le contre-pied des thèses de l'extrême droite sur le sujet. On va écouter Arthur Frayer, l'Alex. Il a enquêté pendant 10 ans dans ces quartiers populaires, dans les cités, et il a sorti un bouquin en 2021. Voici ce qu'il dit à propos de la ghettoisation ethnique de certains quartiers. C'est parti.
Alors, tu viens de publier chez Fayard Et les Blancs sont partis, un livre au titre choc qui rappelle les débats nauséabonds dont sont perclus les plateaux TV sur l'immigration et les théories du grand remplacement qu'on souhaiterait nous vendre. Qu'est-ce qui a motivé cette écriture?
Alors je reviens d'abord sur le titre de ce livre qui est une citation, Et les Blancs sont partis. C'est une phrase que j'ai souvent entendue en reportage dans la bouche des habitants des quartiers populaires qui sont très majoritairement issus de l'immigration. Ils le disent pour s'en plaindre et le déplorer. Ils considèrent, ce sont des gens qui sont souvent marocains, congolais, sénégalais, et ils déplorent ce départ des Blancs. Je trouvais ça intéressant de le mettre comme titre pour justement prendre le contre-pied des théories complotistes du grand remplacement.
Donc effectivement, tu l'as dit, dès le début du livre, tu brises cette idée reçue avec ce titre choc, évoque le fait que la situation finalement de ghettoisation des banlieues est surtout une situation subie par les populations qui y résident. Donc tu rencontres un certain nombre de ces populations, des Comoriens, des Marocains, des Algériens, des Maliens. On va tout au long du livre avoir un certain nombre de portraits assez nourris. Tu déploies un argumentaire qui fait le bilan des politiques publiques dans ces quartiers en proie à cette ghettoisation. Et en premier lieu, tu commences par la question du logement. Ce que tu mets en lumière, c'est le fait que, même si cela en principe est interdit, l'attribution des logements sociaux se fait souvent en fonction de critères ethniques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce point-là?
L'une des causes principales de la création des ghettos ethnique, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ce terme en France, c'est la politique du logement. Sous couvert de politique du logement, on a fait une politique de peuplement. C'est-à-dire qu'on a fléché des populations en fonction de leur origine dans des quartiers spécifiques, mais sans jamais le dire, sans jamais le dire ouvertement parce que la loi française l'interdit. Et dans deux dimensions, soit pour concentrer des personnes en fonction de leur origine dans un quartier, soit à l'inverse, pour éviter dans certains logements HLM plutôt bien cotés de concentrer des populations immigrées. Il y a une chercheuse, Valérie Salapala, qui a travaillé là-dessus, qui donne des exemples intéressants. Elle s'est intéressée à la ville de Marseille. Elle prend l'exemple de la cité de la Savine, par exemple, où elle dit que successivement, via des politiques de logement, on s'est retrouvé avec des vagues migratoires de populations maghrébines, d'abord dans les années 60, puis des populations laotiennes, puis cambodgiennes, et enfin, dans les années 80, des Comoriens. Et à l'inverse, elle prend l'exemple d'une autre cité à Marseille, celle des Catalans, où elle dit là, on a les bailleurs sociaux et les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'État essentiellement, on fait en sorte de maintenir un niveau bas, c'est-à-dire moins de 10% des logements attribués à des personnes issues d'immigration.
Alors, tu viens de le dire, mais tu nies pas la présence de communautés au sein de ces banlieues françaises, communautés ethniques. Au contraire, mais tu cherches à en faire l'analyse pour contrer les nombreuses contre-vérités qui sont livrées quotidiennement dans le discours médiatique notamment. Tu soulèves un point qui, à mon sens, est assez décisif, c'est qu'il ne s'agit pas dans ces banlieues de logique de repli, mais de logique d'entraide. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça ?
Alors, je pense que le souci principal, c'est que l'extrême droite a tellement phagocyté et investi ces questions-là que face à ce discours raciste et xénophobe, on n'a pas du tout développé de contre-argumentaire, si ce n'est des condamnations morales. Et l'intérêt du reportage, ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est que oui, il y a des communautés qui existent, quelque chose qu'on ne peut pas nier, mais à l'inverse des définitions que l'extrême droite a imposées, la première d'entre elles, c'est celle de communautarisme et de repli sur soi, qu'elle a toujours associée à l'idée de communauté. Ce qu'on constate dans les quartiers où je suis parti en reportage, c'est que c'est bien plus des logiques de solidarité. Au processus de la politique de logement qui a servi de politique de peuplement, on a aussi cette logique de communauté qui a effectivement aussi contribué à la concentration de certaines populations dans les quartiers. Mais encore une fois, c'est de la solidarité. Un exemple, c'est que quelqu'un débarquant du Mali va arriver à Montreuil parce que, ou une importante communauté malienne, parce qu'il aura peut-être des membres de sa famille, de son village d'origine, qui y sont. Et ces liens de communauté, ces liens de solidarité, on les constate à peu près partout dans les villes, que ce soit des villes de la grande banlieue parisienne ou de villes plus petites en France. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est cette logique de solidarité qui est, au final, très banale dans l'histoire. On voit déjà que les Bretons faisaient exactement la même chose dans le quartier de Montparnasse quand ils se sont installés, ou les Auvergnats quand certains sont allés s'installer à Lyon ou dans le centre de Paris. C'est la même chose, mais à échelle mondialisée.
Pas issu de l'immigration, mais bien issu de la colonisation. Nuance. Ce n'est pas du rap, c'est la musique qui m'a mis une claque toute mon adolescence. QB influence. Mélange mes démons, mes anges. Je lance des mots du sens. Qu'on devient est indécent. De l'homo sapiens, je descends. Je suis l'homo economicus. Ma carte dans le distributeur pèse plus que ma carte d'électeur. J'ai un prénom d'origine.
Bon, voilà pour le grand emplacement. Ses adorateurs. Ses détracteurs, maintenant on va écouter les idées d'un militant d'extrême droite, car c'est toujours intéressant d'écouter des idées provenant de quelqu'un qui parle sans filtre. Le politique, par définition, pèse ses mots à des fins électoralistes, il veut être élu, donc il fait bien gaffe à chaque mot qu'il emploie. Il y a une stratégie, une rhétorique qui ne tient jamais du hasard à ce niveau-là de la politique. Là, c'est du brut et on perçoit mieux le logiciel de pensée, la logique de gens qui sont de ce bord politique. Ce mec, en plus d'être militant, c'est un rappeur, il s'appelle Cro-Blanc, un des représentants du rap identitaire. Ça paraît un peu ouf comme ça quand on connaît un peu l'histoire du hip-hop, mais ça existe. Et rien que pour ça, parce qu'il est à contre-courant total de ce mouvement, eh bien c'est intéressant de l'écouter. L'interview est dispo sur la chaîne YouTube Aloha News et le journaliste qu'il questionne n'est absolument pas d'accord avec lui, ça se sent rapidement. Mais l'échange est plus ou moins cordial, ils s'écoutent l'un l'autre, ce qui permet justement d'avoir un débat de qualité. Ils ont un peu le temps de développer leurs idées sans s'étriper. Le mec est fan de hip-hop, fan de la culture hip-hop, on va dire, sinon il n'en ferait pas. Mais il rejette complètement l'imagerie du rap. Forcément, les messages politiques, les luttes qui lui sont généralement associées depuis ses débuts. Et même une certaine réalité de cité qui le fait gerber. Lui, c'est un blanc, mais pas un blanc fragile comme il dit. Il chie sur les petites fiottes de blanc qui se font marcher dessus par les blacks et les rebeux. Lui, c'est un mâle dominant, il est viril. Et son homophobie transparaît très nettement dans les extraits qui vont suivre. Les Africains, ils les aiment bien, mais chez eux. Il cite aussi Karl Marx, ce qui dénote une fibre sociale qu'on retrouve aussi chez Le Pen fille. C'est ce que je disais au début de l'émission. Le mieux, c'est de l'écouter Cro-Blanc à travers trois extraits successifs de cette interview. Le tout sera entrecoupé de morceaux de rap identitaire. Une première dans l'émission, c'est parti.
C'est quoi le rap identitaire et est-ce qu'on peut dire rap d'extrême droite ?
Oui, vous appelez-le comme vous voulez, moi j'assume tout, je m'en fous. Vous pouvez appeler ça rap raciste, rap identitaire, rap de blanc, je m'en fiche. La France, c'est le pays des cases, donc ouais, on va dire rap identitaire blanc, parce qu'il y a des rap identitaires de toutes les couleurs. Il y a Nick Conrad, il y a Maghreb United, c'est pas de l'identitarisme ça, je sais pas si ça se dit identitarisme, mais si des blancs faisaient la même chose, ça ferait la une du 20h. Mais des arabes, ils ont le droit. C'est bizarre, je comprends pas, mais... Ou même tous les noirs qui font, ouais, black, noir et fier, etc. Si un blanc disait blanc et fier, il serait traité de nazi. Être blanc, être viril, c'est interdit dans le rap français. Si t'es dans le rap français et que t'es blanc, t'as que trois possibilités. Soit t'es un menteur identitaire, c'est-à-dire que t'es un Seth Gecko ou un Akhenaton qui s'invente une identité. Genre, je suis italien, alors que le mec, il a rien à voir avec l'Italie. Je suis roumain, comme Seth Gecko, alors que le mec, c'est un polonais ou je sais pas quoi. Et voilà, donc tu t'inventes une identité, t'as pas le droit de dire que t'es français. Le deuxième cas de figure, c'est l'ethno-masochiste. C'est-à-dire le mec qui crache sur les blancs alors qu'il est blanc, style Nekfeu. Et le troisième cas, excuse-moi, c'est la victime, le Yankee, le clown. C'est en gros, c'est le mec qui est pas dangereux. C'est Aurel San, l'homme pâle, ces mecs-là. Être blanc et viril dans le rap, et avoir un discours de « ouais, je suis blanc et je t'emmerde », c'est totalement interdit dans le rap. Tu peux pas être « validé », entre guillemets, tu vois. C'est que ce soit par le système ou les autres rappeurs. C'est interdit.
Et à Rémi ?
Mmh ?
Rémi du 9-3 ?
Ouais, un mec, pour moi c'est un arabe.
Pourquoi ?
Bah parce que ça se voit, le mec il est intégré à l'envers, ce mec. À mon avis, il bouffe que des kebabs, il doit traîner que dans sa cité, à fumer des jointes la journée, la moitié obèse. C'est pas ce que j'appelle un blanc fier.
Mais t'es d'accord avec moi que c'est pas des coutumes d'arabe ?
Oui, bien sûr, non, c'est pas ça ce que je veux dire, mais à mon avis, il connaît mieux la culture de la cité que la culture française. Quand j'étais gamin, le rap, c'était des mecs de cité, enfants de primo-arrivants, genre leurs parents, ils débarquaient du bled et qui essayaient d'utiliser les mots les plus complexes possibles, de faire les phrases les plus, les plus soutenues possibles. C'était des mecs qui essayaient vraiment de se sortir les doigts du cul et de montrer qu'ils étaient capables de faire du beau français. Aujourd'hui, si les mecs, ils ont 50 mots de vocabulaire dans un album, c'est le bout du monde. Je me suis infligé, quand je suis parti au ski, là, il y a quelques mois, l'album, juste pour tester, hein, parce que j'écoute pas de rap français, surtout pas, l'album de SCH Rooftop.
Pourtant, les SH,
c'est
très bien.
Non, franchement, c'est catastrophique. C'est Gucci, Kalash, coq, pute, Gucci, Lamborghini, pute. C'est insupportable. Les 14 chansons, c'est la même chose. Je suis trop, trop vénère, wesh, 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 wesh. Je te tue, moi, je te tire belle dans la tête, dans la tête.
Pour le coup.
Mais il a déjà tué quelqu'un, lui. Il a tué qui? Il a un flingue, lui.
Mais il va à l'encontre de l'exemple que tu donnes en disant qu'il n'y a pas de blanc viril. Bah,
lui, mais c'est pas un blanc.
Discours, c'est qui? Qu'est-ce qu'un blanc, alors, du coup?
Mais je sais pas, pour moi, c'est pas ça, la virilité. La virilité, c'est pas la violence gratuite, c'est pas l'arrivisme, le matérialisme, le consumérisme, la prédation. C'est pas ça, les valeurs des Occidentaux. Si on veut pas dire blanc, quoi.
Mais ça, c'est l'américanisation de notre société.
Une certaine part de l'Amérique, oui, je suis d'accord avec toi.
On reproche au rap d'être capitaliste, mais c'est que le reflet de notre société qui l'est de plus en plus.
Je suis d'accord avec toi. Oui, parce qu'on est rentré dans une société ultra-individualiste. Mais c'est pas pour ça qu'il faut s'y engouffrer et s'y perdre.
C'est pour ça qu'on a Nekfeu qui dénonce.
Non, mais Nekfeu est beaucoup trop homosexuel pour que je l'écoute, en fait. J'y arrive pas. Ça sent l'œstrogène. J'y arrive pas. Il dénonce quoi? Il dénonce les blancs alors qu'il est blanc. C'est quel genre de personne qui fait ça? Je comprends pas.
On m'a dit que les blancs sont nuls en rap. Des vraies têtes à l'école, des mecs polis mais nuls en frappe. C'est tellement à la mode, y'a des blancos qui deviennent black. Je vais parler librement, sans filtre, j'ai la peau mate. Et même au Wakanda, on me refoule, je suis trop métisse. Les racisés me classent dans une case sans épices. Je reviens pour foutre la merde, voilà le métis, le bounty qui te hérisse. Gaulois bonnet, j'ai mis de l'hypoga dans le calice. Pour Okaya Paris, c'est Mississippi Burning. Pourtant, je vois rarement des noirs. Suivi par des blancs et d'autre part, un génocide de blancs, tout le monde s'en branle. Comme en Afrique du Sud, on voudra justifier l'injustifiable, on dira que le noir est justicier. Et quand on parle d'histoire, faut pas trop faire les hypocrites. Les gens confondent, me parlent d'égo, pas des faits historiques. Et me fais pas de pathos, je suis petit fils de déporté. Décoction à l'ancienne, pas tes textes de botoxé. Temps de percer l'abcès et tirer les conséquences. Les 20 dernières années étaient néfastes pour la France. Des rappeurs, des magots élevés à la doxa. QI proche du zéro, mais très fort quand il boxe ça. Qui est le plus vendu, toi ou moi qui prends des risques? Un homme libre de mes pensées, pas un nègre de mes ondes. C'est pas la vie dans les tranchées, c'est du rap de nationaliste.
Vois les dégâts qu'ils ont fait sur la masse. Pour les nations, ils ont fait.
Je te dis français, moi j'ai une très 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 haute exigence hein, si tu veux devenir français. Si moi, demain, j'étais président de l'immigration, tu vois, enfin, ministre de l'immigration en France, faudrait me sortir des putains de dossiers hein, pour devenir français. Mais après, ce serait pas impossible. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, les critères pour devenir français ont été tellement rabaissés qu'il va falloir les rehausser à des niveaux quasi divins, quoi. On peut pas en rester là.
Oh, nous méritons ce châtiment. Afin de boucher l'horizon, nous y plantâmes d'ignobles bâtiments. Oh.
Le rap, c'est pas de la musique, déjà. Le rap, c'est une incantation satanique. Ah non, mais clairement, moi, le rap, ça rend fou.
Mais tu en fais.
Le rap, c'est un truc qui rend fou. Ça rentre dans la tête des gens, c'est comme ça, il n'y a pas de changement de rythme, c'est toujours la même chose. C'est une incantation chamanique. C'est fait pour programmer les gens.
Pourquoi tu en fais alors?
Parce que c'est la musique la plus... déjà, j'ai grandi avec, donc j'aime ça. Et je veux dire, vu qu'il n'y a pas d'offre, je suis bien obligé de faire cette offre pour les gamins. Parce que je sais que quand t'es gamin, t'es obligé d'écouter du rap en France. Donc tant qu'ils écoutent du rap, je préfère qu'ils écoutent du rap que moi je fais. D'ailleurs, moi je suis le seul rappeur français, tout le reste c'est de la merde. Par exemple, c'est quoi le préjugé principal dans le rap par rapport aux Français aujourd'hui? C'est que c'est des fragiles. Bah va te balader dans le 11e arrondissement, et des fragiles tu vas en voir. Hein. Des mecs qui sont accros au lait de soja, bisexuels avec des chemises à carreaux, qui font 30 kilos, tu vas voir que ça, d'accord? Et qui se prennent pour des meufs, etc. Bien sûr, c'est une réalité, il y a plein de blancs fragiles, mais va à la campagne, ça va être différent, tu vois.
Ce discours du blanc fragile n'existe plus dans le rap où il n'a jamais existé.
Ah bah c'est normal parce que c'est acté.
Il y a beaucoup de
c'est acté. L'homosexualité dans le rap chez les blancs est majoritaire. Et... tu vois L'Homme Pâle, tu vois Nekfeu, tu vois Aurel San, tu vois Roméo Elvis et tout ça. Mais ces mecs là, ils tiennent pas debout. Quand c'est que demain, moi ce que je veux, c'est dans le rap, un mec arrive qui dit je suis français, je suis fier de mes origines, je suis fier de mon histoire, je t'encule. Voilà. C'est impossible. Je te mets au défi, ça n'arrivera jamais.
Si.
Il peut y avoir que Vald qui en même temps se dit oui, nique le capitalisme, mais je sais pas trop parce que ouais, je souffre quand même. La vie c'est difficile, je fais de l'argent, mais je m'en veux un petit peu. Et puis est-ce que j'aurai le droit peut-être un jour de dire que je suis fier d'être blanc? Parce que si vous vous le dites, moi je devrais avoir le droit. Hein. Ah, je pose des questions dérangeantes. C'est quoi cette histoire? Ça suffit, ça suffit. En fait, les mecs ils doivent se soumettre à l'ambiance générale dans le rap qui est les blancs c'est de la merde. Voilà, les blancs c'est de la merde, c'est des salauds. Et en fait, la victimisation, hein, tu sais à quoi en fait sert la... Tu sais à quoi sert la victimisation ambiante dans le rap chez les racisés, comme tu les appelles, les noirs et les arabes? Tu sais à quoi ça sert leur putain de victimisation dont ils nous ont abreuvé pendant 30 ans? Maintenant, c'est plus dans le bolossage qu'ils sont, tu vois. C'est plus dans l'affirmation de la virilité, de la domination, etc. Mais pendant longtemps, c'était la chialerie. Que ce soit la rumeur, mafia quinfri, tout ça. Ça chialait. Et pourquoi? Ça chialait un peu.
Pour ceux qui chient dessus.
Ouais, d'accord. Ouais, mais ça chialait quand même un petit peu. Non, mais moi, j'ai écouté tout ça. Même, je veux dire, bref, ça chialait pas mal. Negmaron, de balles de neg, tout ça, tout ça. Si, ça chialait quand même. Oui, il y avait aussi le côté affirmation d'une certaine virilité et tout ça, tu vois. Mais il y avait quand même de la chialerie. Maintenant, il n'y a plus du tout de chialerie. Et pourquoi? À quoi a servi cette chialerie? Ça sert de carburant pour justifier le bolossage aujourd'hui.
Un rappeur comme Abdelmalik, par exemple, et plein d'autres, voient un contre-courant de ce que tu dis, car ils affirment fièrement leur appartenance à la France.
Quand je fais des généralités, je fais des généralités. C'est sûr qu'il y a des exceptions. Les gens de gauche vont toujours avoir... C'est-à-dire que nous, on a trop tendance à faire des généralités, et vous avez trop tendance à généraliser des exceptions. D'accord?
Pas du tout.
Si, si.
Pas du tout.
Si, si. Ouais.
Non, mais le discours du blanc fragile tenu par des rappeurs racisés, ça n'existe pas dans le rap français.
Les rappeurs racisés, comme tu dis, c'est pas eux qui valident ou pas un discours. Hein. Eux, ils s'adaptent. C'est pas eux qui font la ligne directrice du rap.
Qui
hein.
Le fait, alors?
Bah, Skyrock. Et anciennement, SOS Racisme. Donc, en gros, le Parti Socialiste. Faut s'intéresser à l'histoire du rap en France. Non, d'accord?
Aujourd'hui, avec à l'ère de Spotify, d'Internet, etc.
Tu crois que c'est plus Skyrock qui fait la tendance?
Bien sûr que non.
D'accord.
Non, bien sûr que non.
Mais de toute façon, il n'y a plus de message politique dans le rap aujourd'hui. Donc, je veux dire, ça, c'est. Je veux dire, c'est intégré. Je veux dire, c'est pas le discours qui fait les choses. Je veux dire, tout ça, en fait, c'est la substance du rap. Là, dans le rap français, tu peux pas être blanc, viril, fier de tes origines françaises. Tu peux pas être arriver à dire je suis français. Pourtant, ça n'existe pas.
Et de leurs leçons, les chrétiens à l'avenir doivent s'entendre pour eux-mêmes. On n'a pas besoin des gens qui te sucent la bite et disent je t'aime. Si on est tenu au silence, mon frère, c'est pas la peur. Je représente les paysans qui tapent 10 heures sur le tracteur. Dis-moi au présidentiel, qu'est-ce que tu comptes faire? Ça fait plus de 20 ans qu'ils essaient de nous faire taire. J'en ai marre du système, ils sont fâchés contre la BAC. Mes morceaux ne passent ni à l'antenne ni à la FNAC. Les politiques tolèrent le crime car ils ne le vivent jamais. L'argent met à l'abri de la violence en vérité. Être nationaliste n'est ni une honte ni un crime. Si vous êtes parti d'Afrique, c'est que vos parents sont des victimes. Ce qu'ils veulent, c'est du soutien pour les sionistes. Mais rappelle-leur que Jean-Baptiste a baptisé le Christ. Ils se prennent tous pour des anges, mais faut le voir pour y croire. Le diable aime se faire voir, ils se prennent tous pour des stars. On est des indignés, oubliés dans l'histoire. On a le reflet de Mère Teresa qui soigne dans le miroir. Nous on s'est fait taper au plus grand de nos désespoirs. On s'est jamais vengé parce que personne ne veut nous croire. Les lois sont contre nous, ici c'est le droit des Africains. Orgueilleux, narcissique comme les rappeurs américains. Je vais pas chercher très loin, j'écris ce que je pense sur YouTube. La réalité de l'intégration c'est qu'on nous entube. Personne s'est opposé à l'expression de Camille Seba. Mais l'apéro saucisson c'est un autre débat. Après Calais de Calcal, Saint-Michel, les attentats. Il faut qu'on s'excuse d'avoir tué Mohamed Merah. Même si je rappe muselé comme un chien stérilisé. Je souffre de l'intérieur, je suis malheureux et fou allié. Qui dit la vérité, c'est plus la peine de te fatiguer. Prouve-moi que je suis un facho car aujourd'hui y'a plus de respect. Je veux leur dire la vérité sur le problème du rejet. Se faire traiter de fils de pute, c'est pas dans mes projets. Il y a plus de menteurs que de gens honnêtes sur la planète. On qualifie de terroriste l'occidental à lunettes. Depuis que je cherche la vérité, je me suis fait des cheveux blancs. À ce qui paraît, c'est pas bon de traîner avec un
blada blanc. Ils se prennent tous pour des anges, mais faut le voir pour y croire. Le diable aime se faire voir, ils se prennent tous pour des stars. On est des indignés, oubliés dans l'histoire. On a le reflet de Mère Teresa qui sonne dans le miroir. Nous on s'est fait taper au plus grand de nos désespoirs. On s'est jamais vengé parce que personne ne veut nous croire. Les lois sont contre nous, si c'est le droit des...
À t'écouter, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de liens communs et que vous êtes étouffés par le même ennemi qui est le système.
Ah non, mais moi je plains beaucoup tous ces immigrés qui sont en fait qui servent d'esclaves modernes aux grands patrons français, ou même certains petits patrons. Ce sont des esclaves modernes. En fait, on fait venir des gens de l'autre bout du monde qui sont déracinés, qui sont ambitieux, qui sont travailleurs et qui ont la dalle, et on leur fait miroiter l'Eldorado occidental, et quand ils arrivent ici, ils se rendent compte qu'ils vont juste servir d'esclaves, et puis quand ils seront... Quand ça fera trop longtemps qu'ils travailleront ici, qu'ils auront un permis de travail, une carte de séjour, etc., et qu'ils vont commencer à pouvoir réclamer des choses, ils seront remplacés par un mec du Bangladesh ou n'importe quoi d'autre qui sera arrivé trois jours avant. Parce que c'est comme ça. Parce qu'ils veulent avoir de la main-d'œuvre malléable et pas chère. De toute façon, Karl Marx l'avait décrit dans son œuvre, c'est l'immigration et l'armée de réserve du capital. Voilà. Point barre, c'est à partir de là, t'as tout compris. Donc oui, effectivement, moi j'ai de la compassion pour ces hommes. Comme je te l'ai dit, je déteste personne. Je tiens, j'aime ma communauté, j'aime ma race, j'aime mon ethnie. Mais c'est pas pour ça que je déteste les autres. Hein. Moi, je loue la nature ou Dieu d'avoir créé une telle diversité chez l'humain. Et justement, j'ai pas envie qu'on se mélange tous. J'ai pas envie qu'il y ait un métissage généralisé en Occident qui fasse que l'Occident disparaisse. Mais donc voilà, pour répondre à ta question... Oui, effectivement, j'ai de la compassion pour ces gens-là, mais c'est pas pour ça que je vais occulter le fait qu'ils ont pris le travail des prolétaires français. Je veux dire, c'est peut-être contre leur gré, mais je veux dire, c'est ce qui s'est passé. Regarde la restauration. Moi, la restauration, mon père, il a fait toute sa carrière dans la restauration. Jusque dans les années 90, c'était un travail qui rapportait très bien, qui était pas du tout infamant quand tu disais que tu travaillais dans la restauration, chef de rang, maître d'hôtel. Même cuisinier, etc., c'était un travail, tu vois, c'était un métier, tu l'apprenais, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus que des immigrés dans la restauration, et c'est des gens qui sont sous-qualifiés, qui ne savent même pas ce qu'ils font la plupart du temps, qui apprennent le travail sur le tas, et des étudiants. Parce qu'il n'y a que les étudiants qui acceptent d'être payés au lance-pierre, faire des heures supplémentaires non payées, etc. C'est devenu un métier d'escroc. Les patrons sont des escrocs pour la plupart, et d'esclaves, voilà, des escrocs, des esclaves. Les escrocs qui essaient de marger un maximum sur des esclaves qui savent pas ce qu'ils coûtent et ce qu'ils peuvent rapporter, et du coup, le salaire qu'ils méritent.
Tu dis par l'immigration, mais j'ai l'impression qu'entre les lignes, c'est par le patronat, finalement.
C'est pareil, mais je veux dire, c'est l'outil du patronat. Mais est-ce que l'outil est innocent? Complètement. Je veux dire, innocent ou pas, ça me concerne pas. Moi, il faut que je casse l'outil. Parce qu'en fait, c'est au mien que ça fait mal, ça.
T'as pas l'impression qu'en politiquement, en créant des alliances avec...
C'est impossible.
Pourquoi?
T'as raison, ça pourrait le faire. Avec des mecs comme Kémi Séba, ce serait possible. Parce que Kémi Séba, il prône le retour en Afrique, tu vois. Il dit, la place d'Africain, c'est en Afrique. En plus, l'Afrique, c'est quand même un continent qui est en pleine explosion. La croissance va être faramineuse en Afrique. Mais qui va en profiter? Les Chinois. C'est-à-dire, ils sont en train de virer les Français, mais qui c'est qui va prendre la place des Français? Les Chinois. Et tu crois que les droits de l'homme, ils en ont quelque chose à foutre, les Chinois? Ça va piquer, hein, je vous le dis, hein, les Africains, il va falloir que vous preniez votre continent en main. Ils vont avoir besoin de cadres, ils vont avoir besoin de cerveaux. Tous les Africains qui ont de la valeur, ils devraient aujourd'hui rentrer en Afrique pour reprendre le continent en main. L'Afrique, c'est le plus gros continent du monde, avec le plus de richesses, il y a une croissance démographique qui est possible, parce qu'en fait, c'est un continent qui est sous-peuplé par rapport à la taille qu'il fait, et il y a trop de choses à faire en Afrique. Et les mecs, quand je vois qu'ils viennent à la nage ici pour se faire exploiter alors qu'il y a tout à faire dans leur pays, c'est complètement dingue. Et le pire, c'est que souvent, c'est des mecs qui ont un boulot là-bas, qui ont une valeur, qui viennent soit d'une famille, parce qu'il faut payer entre 3000 et 5000 balles pour venir ici, et c'est pas rien en Afrique. C'est-à-dire que les mecs, ils se ruinent, ils s'endettent pour venir ici, pour se rendre compte qu'ils vont dormir sous une tente porte de la chapelle, et qu'ils vont se faire, qu'ils vont peut-être de temps en temps avoir un peu de bouffe de la part d'une vieille gauchiste qui lui explique que ça y est, il a enfin réussi sa vie parce qu'il est venu faire le clochard en Europe. Je crois pas que ce soit un destin pour un homme de s'exiler à l'autre bout du monde, loin de sa famille, loin de sa culture, loin de ses traditions, loin de ses amis et tout ça, pour se faire exploiter. Je crois pas. Je pense qu'un homme est fier chez lui. Après, s'il y en a qui veulent venir, pourquoi pas? Mais faut qu'il soit prêt à faire le sacrifice de sa culture pour s'offrir entièrement à la France et suer haut et fort pour mériter cette place. Tu peux être français de n'importe quelle couleur. Faut juste faire ses preuves. faut juste faire ses preuves.
C'est Jean-Marie, n'est-ce pas? Je voudrais vous demander de réaliser un petit rap afin de démontrer à ces bolcheviques socialistes, lol, que le vrai rap français existe, n'est-ce pas? Et pas ces espèces de Snoop Doggery totalement américanisantes. D'avance, merci.
Tu connais bien, il s'appelle Jean-Marie. Dans tes amis, t'aimes le critiquer. Quand vient la nuit, tu l'ajoutes en ami. Ouais, sur son profil, tu vas cliquer. En flippant de te faire piquer. Mesurer l'indigence de ton avis. Tandis que certains se dédiabolisent. Je prends place à la droite du menhir. Et là, j'atomise d'un bien-pensance. Cette puce, elle m'a été promise. Son hymen, un point de détail qui du majeur, je vandalise.
Voilà pour cette longue plongée dans l'univers et le cerveau d'un militant d'extrême droite. Militant et rappeur par la même occasion, il s'appelle Cro-Blanc. C'est déroutant, dérangeant même pour celui qui n'est pas du même bord, mais c'est un travail qui doit être fait à mon sens. C'est une nécessité pour pouvoir lutter sur le terrain des idées, de savoir ce que raconte le camp d'en face. À la recherche du groupe perdu, session 389 cette semaine, troisième émission du cycle intitulé C'est Kiki qu'on va voter pour, et cette semaine... Eh bien, on se met dans la peau d'un électeur d'extrême droite, de la droite identitaire ou réactionnaire, peu importe comment on l'appelle, c'est-à-dire ceux qui hésitent entre Zemmour, Le Pen et Dupont-Aignan. Il représenterait entre 30 et 35% des votants. Le Pen n'a pas changé de discours, son programme est globalement le même qu'en 2017, à part peut-être sur l'euro, un des sujets sur lesquels elle s'était bien cassé la gueule. Par contre, celui qui apporte des sujets nouveaux sur la table, enfin nouveaux en apparence, c'est ce cher Zemmour. Les Le Pen avaient jusque-là peu essayé d'utiliser l'histoire pour asseoir leur discours politique. Et les rares fois où Le Pen, le père a essayé, comme par exemple sur les chambres à gaz, il a été renvoyé devant la justice. Zemmour a été condamné à 3 reprises par la justice, dernièrement pour provocation à la haine pour ses propos sur les mineurs isolés étrangers. Par contre, il n'a jamais été inquiété pour ses incantations et ses références historiques. Et pourtant, le bonhomme en utilise à outrance. Il cite tout et n'importe quoi, n'importe qui, pourvu que ça colle avec sa propre lecture de l'histoire. Le problème n'est pas qu'il utilise des références historiques. Il a lu des bouquins, tant mieux pour lui. Le problème, c'est quand il détourne l'histoire à des fins électoralistes. De nombreux historiens dénonce d'ailleurs cette falsification de l'histoire, et s'il fait cela selon l'historien Laurent Joly, c'est pour essayer de rassembler toute la droite sur un même imaginaire. La méthode Zemmour décryptée, c'est tout de suite, c'est maintenant.
Continue de parler de politique française avec un autre candidat à la présidentielle, Éric Zemmour, le polémiste d'extrême droite condamné à plusieurs reprises et crédité aujourd'hui de sondages avantageux. Alors comment l'expliquer? Sans doute en décryptant la méthode Zemmour, méthode qui s'appuie notamment dans les discours sur des exemples historiques, des exemples à l'interprétation douteuse, voire falsifiée, selon vous, Laurent Joly. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes historien et vous publiez chez Grasset La falsification de l'histoire, Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les Juifs. Laurent Joly, dans votre livre, vous expliquez que le grand projet d'Éric Zemmour, c'est d'unir la droite et l'extrême droite, mais que pour cela, il faut réécrire l'histoire de Vichy. Pour quelle raison?
Parce que Éric Zemmour voit bien que depuis, on va dire, la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a une division entre la droite gaulliste, démocrate chrétienne, et l'extrême droite qui reste attachée au souvenir de la collaboration du régime pétainiste. Et donc, l'idée de Zemmour, c'est de, si on dit que Pétain... il reprend cette idée qui est une vieille idée des pétainistes. Pétain, en fait, il a protégé les Français, c'était un bouclier, il n'a pas, comme on dit, collaboré.
De Gaulle l'épée, c'est ça.
Et De Gaulle, à Londres, c'était l'épée. Si on arrive à imposer cette idée-là, on peut peut-être unir l'extrême droite et la droite avec, vous savez ce que disait Alain Juppé, il y a une croix de Lorraine entre nous, la droite, et vous, l'extrême droite, incarnée par Jean-Marie Le Pen, qui en plus faisait polémique avec des propos sur la Seconde Guerre mondiale qui choquaient, l'affaire du détail, etc.
C'est de là que vient son obsession de Vichy.
Son obsession de Vichy, elle vient de là. Elle vient aussi que... Il vient de l'extrême droite, en fait, Zemmour, idéologiquement. Et ça, c'est ce que je retrace la généalogie de ce qu'il est, de son identité politique. Donc c'est aussi un clin d'œil qui est fait à l'extrême droite. Mais plus fondamentalement, Zemmour s'inscrit dans ce courant qui est international, hein, on le voit. Et d'ailleurs, Zemmour lui-même se revendique. Pour lui, le modèle, c'est Poutine en Russie, Erdogan en Turquie, le PiS en Pologne. Il considère qu'on ne doit pas révéler les faits du passé qui sont défavorables à la nation. Que si on le fait, c'est cracher sur sa nation. Donc ça fait partie, si vous voulez, d'une forme de réécriture de l'histoire qui, dans l'esprit de Zemmour, vise aussi à banaliser ce qui s'est passé sous Vichy pour faire accepter des mesures qui seraient attentatoires aux libertés publiques. Zemmour annonce qu'il veut renvoyer de France 2 millions d'étrangers en 5 ans. Voilà, il faut bien prendre des mesures d'exception qui n'ont été prises de notre passé récent que sous Vichy. Donc voilà.
Alors Éric Zemmour s'est lancé dans une bataille culturelle, hein, c'est ce que vous rappeliez, pour faire émerger ses idées d'extrême droite. Aujourd'hui, il semble avoir réussi quand on voit comme il impose justement ces thématiques, quand on voit, et on l'évoquait à l'instant, l'effondrement de la gauche et la place de l'extrême droite très haute dans les sondages. Comment vous expliquez ce phénomène ?
Il n'y a pas forcément un lien entre sa réécriture de l'histoire et la manière dont il arrive à imposer ses thèmes. Et d'ailleurs, beaucoup de ses partisans ne comprennent pas le lien. Or, il y a un lien qui est évident, c'est même d'après Zemmour, fondamental. Il le dit, si on ne gagne pas sur Pétain, on ne pourra pas imposer nos idées. Zemmour joue sur une inquiétude qu'on peut comprendre, hein, qui est par rapport à la crise que nous connaissons, une immigration qui effectivement a augmenté depuis une vingtaine d'années. Donc il joue sur des peurs pour en fait refaire ce que d'autres avant lui ont fait. C'est-à-dire que si on le replace dans l'histoire, on voit très bien que déjà dans les années 30, au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, vous aviez aussi des hommes politiques qui, comme nous,
Il s'inscrit justement dans cette tradition d'homme politique
de l'imprécateur d'extrême droite, de cet auteur qui connaît le vrai parce qu'il a étudié l'histoire et qui peut vous expliquer que la France a connu un long déclin depuis 30-40 ans, mais que lui a peut-être les solutions pour sortir le pays de son déclin programmé. C'est vraiment un vieux discours de l'extrême droite. On entendait ça avec Charles Maurras, Maurice Barrès. Mais
justement, je vais citer Maurice Barrès parce qu'on a vraiment l'impression d'entendre Éric Zemmour. C'est dans votre livre. Hein. Maurice Barrès, en 1900, écrivait « La France est en guerre civile », ce qu'on entend chez Zemmour tout le temps. « L'abaissement de notre natalité, l'épuisement de notre énergie détermine l'envahissement de notre territoire et de notre sang par des éléments étrangers qui aspirent à soumettre les éléments nationaux. » Ça pourrait être vraiment du Éric Zemmour
d'aujourd'hui. C'est vraiment la théorie déjà du grand remplacement, sans le mot grand remplacement. Et à l'époque, on est en 1900, Barrès, il pense pas aux musulmans, évidemment, il y en a quasiment pas. Il pense aux juifs et il pense aux protestants. Donc vous voyez comment ça paraît complètement incongru. Mais en 1900, l'extrême droite nationaliste est convaincu qu'il y a une sorte de complot et que les protestants et leur idéologie vont s'emparer du pays et mettre à bas la civilisation française.
Et après, il y a eu aussi les francs-maçons. Enfin, on remplace, hein, justement.
Ah oui, tout à fait.
Voilà. Comment expliquer que le discours d'Éric Zemmour séduise aussi largement aujourd'hui, malgré ces contre-vérités historiques, notamment?
D'abord parce que Zemmour se prétend comme celui qui sait. Donc là, il y a vraiment une dimension d'imposture. Il est celui qui, par sa connaissance de l'histoire, peut comprendre les problèmes du présent. Et puis surtout, Zemmour utilise cette méthode, qui est celle des grands doctrinaires de l'extrême droite, parce que Zemmour est fondamentalement un doctrinaire. Il répète toujours la même idée. Donc quelqu'un qui a une idée fixe, obsessionnelle, qui ramène tout à cette idée, il a forcément une supériorité sur les autres, qui hésite, qui doute, qui disent « Ah ben non, c'est plus compliqué que ça ». Lui, martèle le même discours. Un peu comme Charles Maurras, le théoricien de l'Action française, qui, pendant 40 ans, a martelé le même discours.
Merci Laurent Joly d'avoir été avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous publiez donc La falsification de l'histoire, Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les Juifs, qui déconstruit très bien, justement, pour ceux qui veulent savoir, le discours d'Éric Zemmour. Merci à vous d'avoir été
avec
nous.
Merci beaucoup.
Sur mon mur, j'ai un poster d'Éric Zemmour pour jouer aux fléchettes et je t'assure que pour passer l'humeur du jour, c'est plutôt honnête sur la figure. Il a des tas de traces d'amour, de couteaux, de fourchettes et je compte 3 pour ses yeux de fouine, 2 pour sa bouche sale et 1 pour les pommettes. Éric Zemmour,
qu'il ait des jours de misère où les heures sont des supplices, où tout à sa mesure s'unit pour que tu ne puisses pas passer un instant de repos quand tu brûles ton petit déj et que tu sales trop ton repas. Ce jour-là où au moment de partir tu ne trouves plus tes clés, ce moment qu'on choisit toujours, toujours pour t'appeler, le jour où t'as pas envie mais où il faudra bien, où tu débrouilles en dessous la douche les yeux brûlés par le shampoing, t'es mal en point, t'es en retard à la gare et c'est la grève, puis t'as couru, tu sues, il pleut alors tu chopes la crève. Bah oui je sais, le climat social est délétère, ce monde militaire ta ville, il faut un bouc émissaire. Sur mon mur j'ai un poster d'Éric Zemmour pour jouer aux flèches à tes, je t'assure que pour passer l'humeur du jour c'est plutôt honnête. Sur la figure il a des tas de traces d'amour, de lance et de machette, et je compte trois pour ses yeux de fouine, deux pour sa bouche sale et un pour les pommettes. Éric Zemmour. C'est ce jour-là où tu dis que tu prendrais bien des vacances, ce jour précisément où tu reçois ta quittance, où des factures d'importance t'escortent à la potence, te laissant 100 euros pour ta maigre pitance. C'est ce jour-là qu'a choisi ton frigo pour claquer, pour dégivrer et transformer ta cuisine en flaque. Mais c'était il y a deux semaines, la fin de la garantie, tu vas prendre l'air, ta tête est béante et t'es anéantie. Apparemment tes potes aussi ont des soucis, c'est l'apéro. Mais un dernier coup de semence fait que tu atterris sur le trottoir comme la semence qu'un caniche vient de perdre d'un pas franc et alcoolisé. Tu marches dans la... Sur mon mur, j'ai un poster d'Éric Zemmour pour jouer aux fléchettes, je t'assure.
Après l'histoire, l'autre grand cheval de bataille de Zemmour, c'est la religion, la civilisation. La France est un pays chrétien et il doit le rester, quitte à aller casser la gueule à l'envahisseur. La religion comme argument politique décortiqué par le spécialiste en rhétorique, je sais pas comment l'appeler, linguiste Clément Viktorovitch en février 2022 sur France Info. On se quitte là-dessus, j'en ai fini avec cette émission dédiée aux idées et au programme des trois candidats de l'extrême droite. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre couleur politique. Ciao, c'était À la recherche du groupe perdu. Salut.
Vous revenez sur l'une des images du week-end, le meeting d'Éric Zemmour devant le Mont Saint-Michel, événement très commenté, notamment par les adversaires du candidat qui ont raillé la foule clairsemée venue assister à ce discours. C'est autre chose qui a retenu votre attention. Pour vous, ce meeting signe le retour de la religion en tant qu'argument politique.
En effet, Nicolas, et ce n'est pas une mince affaire, puisque dès lors que vous admettez la religion comme un argument politique, vous ouvrez également la possibilité que la politique aboutisse à une guerre des religions, c'est ce que nous verrons. Mais pour lors, revenons à ce meeting. Quelques centaines de personnes étaient venues mettre les pieds dans la boue, littéralement, pour écouter Éric Zemmour qui s'exprimait au milieu d'un champ. L'affluence était aussi faible que les images, il faut le dire, étaient belles. Éric Zemmour a bien sûr parlé du Mont Saint-Michel comme une métaphore de la France éternelle, mais il n'a pas fait que cela. Il a également parlé de Saint-Michel lui-même.
Saint-Michel, l'ange qui dirige l'armée des anges contre celle des démons, dans le combat éternel que se livrent le bien et le mal depuis des millénaires. La première phrase de la prière à Saint-Michel est « Défendez-nous dans le combat ». Je crois que les nations, elles aussi, ont un combat spirituel à mener.
Bon, il se passe beaucoup de choses dans cet extrait qui méritent, je crois, qu'on s'y attarde. La première, c'est bien entendu la référence longuement développée à l'archange Saint-Michel. Éric Zemmour évoque l'Ancien et le Nouveau Testament. Il va jusqu'à citer explicitement une prière catholique. C'est tout à fait inhabituel dans un discours tendu vers la présidence de la République. Rappelons que la France est laïque, c'est l'article 1er de la Constitution. La loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État dispose très clairement que, je cite, « la République ne reconnaît aucun culte ». culte.
Est-ce que ça signifie que les responsables politiques n'ont pas le droit de citer des références religieuses dans leurs discours ?
Alors, absolument pas. D'ailleurs, quelqu'un comme Christine Boutin ne s'en est jamais privé. En revanche, cela signifie qu'aucune référence religieuse ne devrait être considérée comme fondement recevable d'un argument politique universel dans un discours destiné à un large public. C'est le cas dans l'élection à la présidence de la République. Ne nous trompons pas. Ici, la parole d'Éric Zemmour est un acte. Elle est perlocutoire, comme disent les linguistes. En parlant de Saint-Michel sans la moindre retenue, Éric Zemmour ne se contente pas d'émettre du symbole. Il fait quelque chose par sa parole. Il contribue à donner corps à sa propre idée selon laquelle la France peut et doit s'affirmer comme un pays chrétien.
Est-ce que ça signifie qu'il s'extrait de la tradition républicaine ?
Oui, en partie. D'ailleurs, il ne s'en cache pas. Je vous rappelle qu'il conclut toutes ses déclarations par « Vive la République » et surtout « Vive la France ». Mais il y a plus encore. Éric Zemmour ne se contente pas de citer Saint-Michel. Il dresse un parallèle entre le combat spirituel du bien contre le mal et le combat que les nations ont à mener et singulièrement la nation française. Quel est ce combat ? Il s'en explique à la fin de son discours, justement.
Défendez-nous dans le combat, demandaient les catholiques à Saint-Michel. C'est aussi ce que les Français demandent à leur État quand survient le mauvais temps de l'histoire. Rien ni personne ne nous fera reculer devant le danger, l'adversité et les orages de l'histoire. Vive l'indépendance, vive la puissance, vive la souveraineté, vive la République et surtout, vive la France !
Le mauvais temps de l'histoire, les orages de l'histoire. Alors nous avons ici des périphrases. Éric Zemmour parle, sans le nommer, du danger qui menacerait la France, celui contre lequel il faudrait se défendre et ne pas reculer. Durant tout ce discours, jamais ce danger n'est cité explicitement. Mais il suffit d'écouter ses nombreuses autres déclarations pour comprendre, sans l'ombre du commencement d'un doute, que pour lui, cet ennemi, ce danger, c'est l'islam. Or, n'oubliez pas, tout le discours est structuré par la référence à Saint-Michel, l'archange du bien qui mène, et il le précise lui-même, le combat militaire contre le mal. À nouveau, la pensée d'Éric Zemmour se déploie comme un puzzle, mais une fois que toutes les pièces sont rassemblées, le tableau se révèle dans une clarté diaphane. Ce candidat à la présidence de la République ne se contente pas de prophétiser un conflit de civilisation, il envisage et peut-être même appelle tout simplement à une guerre des religions.
Entre les lignes, c'était Clément Viktorovitch.
Il reviendra, il fera grand jour.
Il fera grand jour.
Pour fêter celui qui inventa l'amour.
Qui inventa l'amour.
Au fond d'une étape, d'une naquit de Marie, personne n'avait voulu de lui.
Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Du haut de la croix, indique-nous le chemin. Il le connaît si bien.
Toute sa vie il prêchait le bonheur, la paix.
Le bonheur, la paix.
La bonté, la justice était sa loi.
Était sa loi.
Quand il reviendra, il nous pardonnera, comme il l'avait fait pour Judas.
Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens.